Donc je le répète encore parce que je pense que c'est important de comprendre. Souvent les gens disent, moi je médite, et puis c'est comme si on disait, quand on dit je médite, c'est comme si on disait, comme si on avait tout dit. Mais en fait, ça ne dit rien du tout parce qu'il y a tellement de manières et de directions de méditer que en fait, ça ne nous donne pas beaucoup d'indications sur ce que la personne fait quand elle est là et qu'elle ferme les yeux. Et ici, on va aborder encore une autre forme de méditation, une autre possibilité de la méditation qui vient, souvent elle se complémente. Hein, et quelque part, en ayant, je pense qu'on a besoin d'un panel de différentes pratiques pour cheminer. On ne pourrait pas aller très loin dans la pratique de la méditation avec juste observer la respiration, point barre. On serait vite bloqué en fait. Il faut y rajouter d'autres outils comme la conscience de l'impermanence, par exemple, va rajouter la capacité d'aller beaucoup plus loin avec la conscience de la respiration. Elles vont s'assembler un peu et travailler ensemble. Et la forme qu'on va voir ici, elle est majeure. Elle est très importante dans la pratique de la méditation. Et c'est une des méditations sur de bienveillance. Alors là, déjà, ben, bienveillance, ça implique qu'il y a la dimension du cœur qui n'a pas encore été vraiment abordée ici depuis le début du séminaire. Hein, ça a été beaucoup la concentration, l'attention. On dirige notre attention ici, on dirige notre attention là. On essaie de comprendre le fonctionnement de l'attention. Donc, on a déjà remarqué avec l'attention qu'on a déjà dit que quand on amène l'attention quelque part, ce qui se trouve dans le champ de notre attention détermine notre expérience. C'est-à-dire, si c'est une montagne qui est dans le champ de notre attention, on fait l'expérience de la montagne. Si c'est une télévision avec un film, eh bien, on fait l'expérience du film. Si c'est une pensée d'un certain style, on fait l'expérience. Et en fait, c'est ça qu'on vit. Et puis, si l'attention est dans le corps, on fait l'expérience du corps. Donc, en fait, ce qui se trouve, ça, pour ceux qui s'intéressent un peu à la philosophie, c'est la phénoménologie. C'est le fait que notre réalité, c'est ce qui est le contenu de notre conscience dans le moment. C'est ça notre réalité. Donc, notre réalité ici, c'est ce cercle, c'est ce moment. C'est ça notre réalité. Parce que notre attention est ici. Et voilà. Et si à un moment, quelqu'un pense à un souci qu'il a et qu'il doit régler, à ce moment-là, sa réalité devient ce souci qu'il a réglé, avec les protagonistes de ce souci et tous les éléments de ce souci. Ça devient notre réalité, en fait. Donc, quand notre attention va dans certains styles de pensée, ces pensées, ce qu'elles induisent, c'est ça notre réalité. Voilà. On pourrait même dire, c'est ça la réalité du moment, en fait. Et donc, quand on comprend ça, on prend soin de voir où va notre attention pour ne pas la laisser coincée dans des réalités problématiques qui génèrent beaucoup de grisailles, qui nous alourdissent et qui n'amènent aucune solution en fait aux problèmes qu'on peut rencontrer. Mais ici, ce qu'on va faire, c'est que on va en fait utiliser la capacité qu'on a de visualiser. Donc là, en fait, on va utiliser la pensée. On va utiliser la pensée pour visualiser des personnes. Je vais décrire un processus. Donc, on va par exemple commencer par penser à quelqu'un qu'on aime et lui souhaiter des belles choses. Donc, en général, on va déjà lui souhaiter d'être heureux ou heureuse, d'être en bonne santé, et puis d'autres souhaits qui vont nous venir. Et en fait, en faisant ça, il y a plusieurs choses à en dire. En faisant ça, imaginez, on est en méditation, on est avec notre respiration, on vit un certain type d'expérience. Et puis là, on se dit, ah bah tiens, je vais un peu passer à la méditation de bienveillance. Du coup, on pense à quelqu'un qu'on aime bien et on souhaite à cette personne d'être heureuse, d'être en bonne santé et tout. Notre expérience du moment change. On ne vit plus la même chose que l'instant d'avant où on était avec notre respiration. On a changé la couleur de notre moment présent. Là, on vit un moment d'amour, en fait. Puisque c'est une personne qu'on aime et qu'on lui souhaite des belles choses, il y a Du coup, il y a de l'amour, de l'enthousiasme. On peut vraiment sentir parfois comment on aime cette personne et comment vraiment c'est important pour nous qu'elle trouve les chemins du bonheur, qu'elle soit libre de la souffrance, qu'elle trouve ses chemins dans cette vie, qu'elle réussisse dans ce qu'elle entreprend. Enfin, et on peut sentir parfois même de l'enthousiasme et tout ça. Donc en fait, on est en train d'amener de la beauté, de l'amour, de la couleur, du positif dans notre moment présent. On est aussi en train d'entraîner notre esprit à avoir des pensées positives pour les gens qu'on aime. Ce qui n'est pas forcément automatique. On peut être à côté des gens qu'on aime, mais ce n'est pas pour ça tout le temps qu'on est attentif ou impliqué dans des sentiments de bienveillance à leur égard. Donc, dans la manière dont on va pratiquer, on va commencer comme ça avec des personnes qu'on aime. On va les amener à notre attention. Et c'est étonnant, en fait, de voir que simplement grâce à la mémoire, plus de l'imagination, ce n'est pas une méditation toujours facile. Certains auront plus de facilité que d'autres à générer des images parce qu'il faut la mémoire, l'imagination et la concentration, en fait. Et donc, mais on peut s'étonner quand même du fait qu'on arrive à se faire vivre des expériences juste dans notre esprit. Et qu'en plus, on peut apprendre de ces expériences. Et c'est ça qui va être très très intéressant dans cette forme de méditation. C'est qu'on peut générer en fait des histoires qui nous permettent d'apprendre et de développer des qualités qu'on voudrait développer. Je vais y revenir. Donc là, dans cette méditation, on va faire ça avec plusieurs personnes qu'on aime. Et puis après, on va passer à nous-mêmes. Alors là, donc on est toujours dans notre méditation. Elle est très guidée, cette méditation, vous allez voir. Alors que parfois, il y a des méditations où je laisse des grands espaces. Ici, c'est vraiment un pas à pas. Je propose de passer d'une personne à une autre. Et puis après ça, hop, j'amène l'étape suivante et puis l'étape suivante. Là, on va amener notre attention sur nous-mêmes. Et là, c'est à nous-mêmes en fait qu'on va se souhaiter d'être heureux, qu'on va se souhaiter d'être en bonne santé, qu'on va se souhaiter de trouver les chemins qui mènent au bonheur, on peut se souhaiter plein de choses, de se souhaiter de se souhaiter la capacité de suivre les chemins qui sont importants pour nous. De se souhaiter d'apprendre la patience, de se souhaiter d'apprendre d'avoir plus la capacité de la discipline pour pouvoir vivre ce qu'on a envie de vivre. En fait, on va pouvoir faire un état des lieux de tout ce qu'on aura envie de se souhaiter. Et c'est ce qui va se faire à cet endroit de la méditation. Pour cette méditation, c'est cet endroit-là, quand c'est avec nous-mêmes, ce qui est important... En fait, ce qui va se faire, c'est qu'on va commencer par se dire « qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce que je voudrais vraiment me souhaiter ?» Ça nous pousse à ça, en fait. Ça nous pousse à savoir, en fait, qu'est-ce que je voudrais vraiment me souhaiter ? Et ça, déjà, rien que ça, c'est une démarche essentielle. Parce que ça clarifie nos attentions dans notre vie. Hein, imaginez si vous faites ça 10 ans, 20 ans, tous les matins. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi ? Qu'est-ce que je voudrais me souhaiter ? Eh bien, peu à peu, on l'ancre dans notre esprit. On le fait habiter en nous, en fait. Cette intention, ça devient une intention qui revient dans notre quotidien. Si on se souhaite, par exemple, d'être plus doux avec nous-mêmes, hein, on remarque qu'on a une grande critique intérieure. On est tout le temps en train de se flageller dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on ne fait pas comme il faut, et qu'on aurait dû faire comme ceci et qu'on ne le fait jamais. On voit même parfois que c'est parfois, la manière dont on se parle, ça peut être de la maltraitance. Hein, si on écoute bien les mots qui se disent, on n'oserait jamais les dire tout haut à quelqu'un. Et on se les dit à soi-même. Ah donc, il peut y avoir une critique très dure. On peut se souhaiter, par exemple, d'avoir plus de douceur vis-à-vis de nous-mêmes. Qu'est-ce qui va se passer ? Imaginez si tous les matins, vous vous mettez maintenant à méditer dans votre méditation de bienveillance, quand ça en vient à vous, vous souhaitez d'avoir plus de douceur et de tolérance vis-à-vis de vous-même. Après, vous allez au petit-déj. Et là, au petit-déj, vous renversez le pot de confiture, et là, vous dites « Vraiment, mais qu'est-ce que t'es maladroit dans la tête ? Hein, t'es vraiment gauche ?» Et là, il va y avoir une voix qui va se surimposer, qui va dire « Mais non, Ça arrive, un accident. C'est normal dans une vie qu'on renverse un pot de confiture, ça arrive de temps en temps. Il va y avoir une voix plus douce qui va remplacer. Parce que dans la méditation, ça a été pratiqué, et du coup, on va s'en rappeler. Et on va peu à peu transformer cette attitude qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes. Et ça, ce n'est qu'un exemple, mais il y a autant de choses qu'on a envie d'incarner. À force de se les souhaiter, on va s'en rappeler et ça prend place en fait dans notre esprit, dans notre réalité, et ça s'incarne peu à peu dans notre quotidien. Après, on va passer. Juste par rapport à nous-mêmes, on peut remarquer à cet endroit-là, pour certaines personnes, c'est vraiment pas facile cette méditation. Il va y avoir, et ça sera peut-être le cas pour certains d'entre vous, certaines personnes qui, quand c'est pour les autres, ça va très bien, mais quand c'est pour soi-même, on ne trouve rien à souhaiter vraiment. Ça parle de quelque chose dans notre clarté, dans notre relation vis-à-vis de nous-mêmes. Ça dit quelque chose. Et il va y avoir certaines personnes qui vont dire, ouais, quand c'est pour moi, vraiment, j'y crois pas. Voilà. Où il va y avoir, il va, il peut, ça peut même soulever une critique intérieure directe, genre je me souhaite d'être en bonne santé, et là il peut y avoir une petite voix qui arrive et qui dit bah faudrait déjà que tu arrêtes de fumer, ou faudrait déjà que tu fasses un peu plus de sport, ou que tu changes ton alimentation. Et du coup il va y avoir tout un tas de conditions, et on n'a pas, comme si on n'avait pas le droit de se souhaiter d'être en bonne santé là tel quel, qu'il fallait qu'on soit en fait parfait. Et alors, on pourra souhaiter d'être en bonne santé. Et que tant qu'on n'est pas parfait, on ne peut pas souhaiter d'être en bonne santé. Donc, en fait, il va y avoir, comme ça peut soulever une espèce de critique intérieure. Et on voit, en fait, on voit ce qui, à l'intérieur de nous, pose des murs et qui nous empêche, en fait, d'être pleinement nous-mêmes et de s'aimer tel qu'on est. Et ça dit beaucoup de ce qui se passe dans notre vie, en fait, dans notre quotidien, parce que là, on le voit. D'habitude, on ne le voit pas, mais en fait, c'est là. Et ça a un impact sur la manière dont on vit, sur nos choix, sur ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Donc, si c'est le cas, si vous le voyez, ben, en fait, ça peut être. Parfois, c'est douloureux de le voir, et en même temps, c'est une bonne nouvelle, parce que c'est au moment, quand on le voit, c'est la première étape pour transformer, en fait. Après, donc, on va passer à des gens plus inconnus. Ça peut être, par exemple, on est dans une méditation, et vous pouvez le faire avec certains d'entre vous avec qui peut-être vous n'avez pas connecté encore, ou même si vous avez connecté, mais des gens, en fait, ça peut être un chauffeur de bus, ça peut être quelqu'un qui est à la caisse du magasin, ou le facteur, ou quelqu'un, c'est pas ma famille, mes amis, mon mamet. C'est simplement quelqu'un qu'on connaît comme ça, mais en qui on n'a pas un intérêt particulier. En fait, qu'il soit heureux ou malheureux, ça ne changerait pas fondamentalement notre réalité. Alors que si c'est notre meilleur ami, ça change notre réalité. Si c'est nos enfants, ça change notre réalité. Donc là, on va aller vers des gens un peu plus inconnus. Nos souhaits vont être un peu plus généraux, hein, ça va être moins précis, moins spécifique. Ça va être un petit peu plus court, on peut passer un peu plus rapidement d'une personne à l'autre. Mais là, quand on fait ça, on essaye de sentir quelque chose d'authentique. On essaye comme si vraiment ça nous apportait que le facteur vraiment soit heureux, vive une belle journée, ou, enfin, voilà, se développe les qualités qui lui sont nécessaires, qu'il soit à même de vivre avec un cœur libre et sans peur. Enfin, ça peut devenir très beau en fait dans la manière dont ça se dit. Là, ce qu'on est en train de faire, on est en train d'entraîner notre esprit à être attentif aux gens qui nous entourent. Parce que très souvent, on peut vivre sans vraiment voir les gens qui sont autour de nous. Et en fait, au plus on est dans des difficultés psychologiques, au plus on est insatisfait par notre quotidien, on cherche et par nous-mêmes en fait, et où on trouve que voilà, on cherche des solutions pour être plus heureux et tout ça, au plus on s'enferme dans une bulle et au moins on voit qu'il y a des gens autour. Et en fait, très souvent, et ça c'est quelque chose qui est étonnant, mais très souvent, quand on est Quand on n'est pas vraiment heureux et qu'on cherche à être heureux et qu'on va enchaîner les stages de ceci, les lectures de cela, et les pratiques comme ceci, et peut-être d'essayer de manger plus de chocolat ou faire plus de... Enfin, quoi que ce soit qu'on va chercher pour être heureux. Et en fait, il y a quelque chose qui nous enferme dans notre recherche, qui se tourne sur nous-mêmes, alors que souvent, ce qui nous manque, c'est d'aimer. Ce qui nous manque, c'est d'aimer. Donc en fait, on se tourne vers nous-mêmes et on peut avoir tout un tas de pratiques qui sont au final assez égocentriques, tournées vers nous-mêmes pour être plus heureux, pour essayer de se sorting, des pratiques de bien-être, on va dire d'une façon. On peut enchaîner les pratiques de bien-être pour se sentir mieux. Et souvent, en fait, ce qui nous manque, c'est d'aimer. Parce que si on aime plus, eh ben, on est nourri. C'est du manque d'amour, souvent, en fait, notre malaise. Et ce n'est pas en enchaînant tout un tas de pratiques. Alors, si, elles sont bien, ces pratiques, mais il faut faire attention qu'il y ait suffisamment d'attention disponible aux autres. Et alors, on sera en relation, et alors, peu à peu, notre monde s'agrandira et il y aura plus de moments, en fait, d'interaction amicale et chaleureuse. Donc là, on entraîne l'esprit. Pour moi, cette pratique, c'est un entraînement de l'esprit. Quand je souhaite au facteur d'être heureux et en bonne santé, je n'ai pas, moi, la croyance que ça va impacter sur ce qui va lui arriver dans son futur. Certaines personnes le pensent comme ça, et ça me va très bien. Moi, je ne sais pas, en fait. Mais par contre, ce que je sais, c'est que ça transforme mon esprit. Ça veut dire que quand le facteur y passe, ben, parce que je le fais tous les matins, je connecte vraiment avec le facteur. Ce n'est pas juste un truc tout en restant dans ma tête. Là, il y a quelqu'un qui m'est devenu quelque part important. Et après, ça se généralise à tous les gens que je vais rencontrer. Je vais avoir un moment d'attention pour eux parce qu'ils comptent pour moi, parce qu'ils comptent pour eux, parce que c'est un entraînement de l'esprit, ça. Et puis, après, on va le faire, cette pratique, on va le faire avec des gens avec qui on a des difficultés. Là, ça devient intéressant. Alors là, ça devient intéressant. Là, c'est encore autre chose. Et là, on va commencer. Alors, je vous conseille vraiment de ne pas commencer par les gros dossiers. Hein, ceux-là, les laisser de côté. Juste les petits trucs. Ça peut même être avec quelqu'un qu'on aime bien, mais il y a une petite tension là, ça suffit. Hein? Et c'est bien même, en fait, de faire ça pour aller. Pour, malgré cette petite tension, je te souhaite. Et en fait, parce qu'il y a plein d'amour, mais parfois on est bloqué sur la tension et du coup, il y a juste la petite tension qui est là. Et tout l'amour, en fait, c'est comme si on avait... Vous savez, avec un doigt, on peut cacher une montagne. Et c'est ça, en fait. On est tellement en train de regarder la petite tension parce qu'elle attire toute notre attention qu'on ne voit pas l'immensité de l'amour qu'on peut avoir pour cette personne. Et du coup, ça permet, voilà, de dire, ben, malgré ce truc, oui. Et là, il faut faire super attention. Donc, là, je finis ma phrase. Malgré ce truc, je te souhaite d'être heureux, d'être en bonne santé. Et puis, vous allez voir, c'est très créatif ce que vous allez souhaiter, en fait. Mais là, à cet endroit-là, il faut vraiment faire attention de ne pas rentrer dans l'histoire de la problématique. C'est souvent ce qui se passe, c'est quand on vient avec une personne avec qui on a la difficulté, on fait « Ah bah tiens, je vais penser à un machin ». Et puis alors, dès qu'on a machin dans l'esprit, c'est « Ah ouais, mais quand même, il n'aurait pas dû ceci ». Et là, on est parti pour 10 minutes. S'il n'y a pas de bol, on est parti pour 10 minutes avant de se dire, et on se retrouve tout tordu, avec les mâchoires serrées et tout, à se dire, ah merde, je me suis fait avoir en fait. Et là, voilà, on revient, on respire, et puis éventuellement on y retourne ou on passe à quelqu'un d'autre. Mais... Donc là, en fait, il faut être très attentif. On sait que c'est un endroit glissant où on va partir très vite dans l'histoire de la problématique ou de la tension. Et il faut pas que c'est pas ça le but. Donc moi, quand je sais, et c'est intéressant, quand je fais ma méditation, quand je viens aux gens avec qui je peux avoir une difficulté, eh ben je vais prendre d'abord, avant d'entrer dans ce domaine, je remets ma posture, je reprends une respiration, je sais que je vais rentrer dans ce domaine et je ne veux pas me faire avoir. J'allume la lumière et je fais allez. Et alors là, je vais éventuellement aller vers une personne et puis. Et c'est une pratique qui est très très intéressante à cet endroit-là aussi, parce qu'en fait. Elle nous permet d'apprendre à relationner différemment avec les gens avec qui on a des difficultés. Parce que c'est quand même antinomique, quelque part, de premier abord, de souhaiter à quelqu'un avec qui on a une difficulté, surtout si on va après sur les gros dossiers, de quand même être heureux, d'être en bonne santé, tout ça. Et ce que ça fait moi je l'ai pas mal pratiqué. Quand on vit dans les villages, il y a des tensions en général. Donc quand il y avait des tensions dans les villages, je l'ai pas mal pratiqué, surtout avec un villageois avec qui il y avait des tensions plus importantes. Et ça m'a pris du temps, hein, mais pour vraiment rentrer en contact avec lui. Et je sentais en fait, je sentais que au-delà des difficultés que j'avais avec lui, il y avait de l'appréciation quelque part. J'arrivais à sentir de l'appréciation. Mais quand on était en lien direct, c'était toujours compliqué, quoi. Et ça m'a appris peu à peu à, même quand lui, c'était quelqu'un qui criait beaucoup, qui était très agressif et tout ça, ça m'a appris en fait à moi avoir l'attitude que j'avais envie d'avoir, même quand lui, il partait sur une attitude hyper agressive. Et ça m'a appris en fait à dire ce que j'avais envie de dire à la manière dont j'avais envie de le dire. Et parfois là même, je m'entraînais très spécifiquement sur comment je voulais l'attitude. J'imaginais notre conflit et j'imaginais comment j'étais dans ce conflit, comment moi j'allais me tenir et me comporter. Et puis 3 jours après, on se voyait et puis ça marchait pas du tout. Et ça a pris super super plat de temps. Mais quand même. J'y suis bien arrivé, maintenant j'y arrive bien. Et ça a changé complètement la nature de notre relation. En fait, on s'entend bien maintenant. Il gueule toujours, mais parce que c'est dans sa nature. Et moi, je ne le prends plus forcément pour moi. Enfin, ça a changé ma posture et ça a changé aussi la dynamique de notre relation. C'est en fait comment ne pas rentrer dans une relation de conflit, ne pas soit être dans une relation de conflit et de guerre quand il y a des problématiques. C'est que ça nous apprend à mieux gérer. Voilà les tensions, les difficultés qu'on a avec les autres, à être plus juste. Souvent, c'est mal compris cette pratique. On va comprendre que souhaiter à quelqu'un avec qui on a des difficultés, c'est comme si c'était un peu lui pardonner ou comme si c'est malgré tout c'est quelqu'un de bien et tout ça. Et du coup, en fait, surtout si on a peur du conflit, c'est une manière d'éviter le conflit, de dire en fait tout va bien. Et ça, c'est un mauvais usage de cette pratique. Ce n'est pas une manière d'éviter le conflit, c'est au contraire une manière de pouvoir aller plus au front, mais à la manière dont on aimerait y aller. C'est une manière de réussir à dire ce qu'on voudrait vraiment dire. Et donc, c'est un entraînement à ça. Il y a beaucoup de choses à en dire à cet endroit-là, et vraiment, je pense que. Le plus important, c'est qu'on ait bien compris et que ça semble juste de souhaiter à cette personne ce qu'on lui souhaite. Parce que si ça semble pas juste, il faut pas se dire, ah oui, c'est une bonne chose à faire et il faut vraiment le faire et donc je vais le faire. Non, il faut avoir compris pourquoi, en fait, ça a du sens de le faire et pourquoi c'est bon de le faire et pourquoi c'est bon pour moi de le faire. Et donc de savoir que c'est pas pardonné, c'est pas forcément oublié. C'est pas valider une attitude non plus. Enfin, il y a pas mal de choses en fait à comprendre avant de le faire. Donc, si vous pratiquez cette méditation-là, quand vous venez aux personnes avec qui il y a des difficultés, s'il y a des gens avec qui vous ne vous sentez pas, en fait, il faut pas le faire. Il faudra que ça soit clair que vous, oui, ah oui, là, je me sens prêt et je vois que c'est juste de le faire. Ne serait-ce que parce que ça nous libère, nous. Mais tout ça, il faut vraiment le voir. Je pense que c'est malsain de le faire parce qu'on y croit. Il faut voir cette compréhension. Cette compréhension, parfois, elle peut être. Par exemple, une réflexion qui peut aider, c'est si on pense à quelqu'un qui fait du tort, on peut prendre une personne politique, on peut prendre. Il y a des gens qui disent, moi, j'ai pas trop de conflits, en fait, je vois pas. Ben, prenez un personnage politique, voilà. On a toujours bien avec qui on n'a pas trop d'atomes crochus pour. Et c'est peu dire. Donc, et voilà, dans quelle mesure est-ce que ce serait juste à cette personne de souhaiter d'être heureuse, d'être en bonne santé? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Il faut comprendre ce que ça implique, ce que ça veut dire. Peut-être que si on a cette compréhension qu'une personne qui crée. De la souffrance autour d'elle-même, c'est l'expression du fait déjà qu'elle n'est pas en paix à l'intérieur avec elle-même, parce qu'une personne qui est vraiment en paix et qui est vraiment posée ne génère pas autant de souffrance. Et que donc, quand on souhaite à quelqu'un d'être heureux, d'être en paix avec lui-même, c'est quelque part souhaiter que ça s'apaise dedans, et on sait que ça va rayonner différemment après, que cette personne, ça va se transformer, sa manière d'être aussi. Voilà, en tout cas, là, il y a des choses à aller comprendre avant de le faire. Et puis après, c'est une pratique qui peut aller vers des groupes, ça peut être tous les gens qui habitent en France, ou ça peut être tous les êtres humains, tous les êtres vivants. Et ça devient souvent très, quand on va vers là, ça devient beaucoup plus mental quelque part. On relationne à notre idée, si on dit par exemple que c'est à tous les êtres humains, ben, ce qu'on est en train de soigner là, c'est notre relation à l'être humain. Et je pense qu'il y en a besoin, parce que on a des. Je rencontre souvent des gens, et peut-être vous reconnaîtrez là aussi, je rencontre des gens qui pensent que l'être humain ne devrait pas exister, ou qui pensent que l'être humain est une plaie infectée sur cette planète, ou qu'il y a des gens presque qui ont honte d'être un être humain, de faire partie de cette humanité qui est en train de tout détruire. Ou voilà, c'est aussi soigner cette relation qu'on a à l'idée, à l'image qu'on a de l'humain, qui a besoin d'être soigné aussi. Ce qui est très intéressant avec cette pratique, donc cette pratique en fait, elle nous permet essentiellement de vivre de l'amour, de ramener des moments où on sent cette qualité, hein, la bienveillance est une qualité d'amour dans notre quotidien. Elle transforme notre esprit. Donc ça c'est autre chose, c'est d'une part de vivre de l'amour. C'est intéressant de commencer, par exemple si vous méditez, vous faites une méditation d'une demi-heure ou d'une heure, c'est intéressant de commencer par un peu de méditation de bienveillance parce que ça va colorer toute la méditation, parce qu'il va y avoir du cœur en fait dans la méditation. Ça éveille la sensation du cœur. C'est une méditation qui peut amener énormément d'absorption aussi, on peut être très très concentré, on peut rentrer dedans et puis à un moment même, il y a des fois on n'a pas envie de s'arrêter tellement c'est bon, on y retourne, on retrouve d'autres personnes et on continue parce qu'en fait c'est très très agréable quand on aime. Et c'est aussi une pratique qui va être très utile dans le quotidien aussi, pour intégrer dans le quotidien, on peut... moi ce que j'adore, c'est dans les transports. J'en fais pas énormément, mais dans les transports publics, alors ça ne rate jamais. Là justement, j'étais en Angleterre, donc j'en ai fait pas mal. Quand on est dans un moment où ça peut être dans des grands magasins, on est dans un moment où il y a des gens autour de nous et où on est un peu posé, on a toujours le choix de revenir à la respiration, d'être présent, plutôt que de laisser le petit vélo tourner, là. On a toujours, hein, on peut revenir et être juste là. Et là, quand on a une bonne prise de cette pratique, quand on l'a suffisamment pratiquée, on peut aussi simplement regarder les gens qui sont autour de nous et leur souhaiter d'être heureux, d'être en bonne santé, que cette journée soit vraiment une belle journée pour eux ou qu'ils développent les qualités du cœur et qu'ils découvrent leur lumière intérieure et qu'ils la laissent rayonner sur tous les gens qui croisent. Ça peut être très... je trouve pas le mot, mais c'est pas volubile, c'est chaleureux et puis très coloré en fait. Et on peut avoir plein de manières très poétiques parfois de souhaiter à des gens, de souhaiter des belles choses. Et puis même de les imaginer qui s'éveillent quelque part, qui soient eux-mêmes touchés par la profondeur de leur propre personne, qu'ils la connaissent. Et puis que du coup, ils rayonnent ça sur tous les gens qui croisent. On peut imaginer ça. Et c'est beau. Et alors, on vit un très beau moment. On est là dans un transport public, surtout dans le métro à Paris, c'est sympa à faire. Et on vit des super beaux moments. Et puis là, s'il y a quelqu'un qui est en difficulté dans la rame de métro, on va le voir et on va pouvoir l'aider en plus. Et on est au bon endroit, au bon moment, même dans notre esprit. Et on va avoir du coup les bons réflexes pour pouvoir aider. Et quand on aide, on est utile, c'est bon pour nous, c'est agréable, c'est bien sûr agréable pour la personne qu'on aime. Donc c'est gagnant-gagnant en fait. L'amour, c'est toujours gagnant-gagnant. le vrai amour, quand ce n'est pas de l'amour conditionnel, je t'aime si tu es comme ci ou comme ça, c'est toujours gagnant-gagnant. Et donc cette pratique, elle peut vraiment être très utile dans le quotidien. Et vraiment, on se sent en contact avec les gens. Je le dis à chaque fois parce que c'est essayez-le si vous pratiquez un petit peu chez vous et puis vous commencez à le faire surtout. Alors, chez nous, on ne prend pas trop les transports publics, hein, mais bon, peut-être vous, vous prenez. Mais vraiment, quand il y a quelqu'un dans le bus, et les gens dans le bus et qu'on fait ça dans le bus, quand ils descendent à l'arrêt, on a envie de leur dire au revoir. Parce qu'on a vraiment l'impression d'être rentré en contact avec eux. En fait, on est rentré en contact à l'intérieur de nous-mêmes avec eux. Donc c'est une très belle pratique. Et c'est une pratique aussi, d'ailleurs dans le bouddhisme, on l'appelle, un de ses noms, c'est l'antidote. C'est une antidote, on l'a déjà vu, à la critique intérieure. Hein, ça va contrecarrer la critique intérieure. On va transformer la manière de se penser et de relationner à soi-même. Mais c'est aussi une antidote au marasme. C'est aussi une antidote à la grisaille. C'est aussi une antidote à la... Quand vraiment les choses ne vont pas bien et qu'on vit des choses très très dures, si on a cette tournure d'esprit et cette capacité de se souhaiter, de trouver en soi les ressources pour traverser ces moments difficiles, ou de se souhaiter d'avoir du soin à l'intérieur, que les endroits où il y a des plaies, que cette belle nature qu'on a de l'intérieur nous soigne, ou de voilà, on peut trouver des... qu'on commence à se souhaiter et à relationner avec douceur avec soi-même, ça va soigner. Et aussi, quand quand on ne trouve pas du sens dans notre vie, on a des moments où ça n'a pas de sens, en fait, pendant une heure, deux heures, ou parfois un an, deux ans, où on ne trouve plus du sens, on ne trouve plus de la joie, voilà, y a du marasme qui est là et de la grisaille, de souhaiter aux gens qu'on croise, d'avoir des beaux souhaits et de vraiment commencer à leur adresser, ne serait-ce que leur adresser à eux, de leur dire ben, « j'espère que toi tu seras libre du marasme, que le marasme ne fera pas plus partie de ton expérience, que tu sois en sécurité hein? ». Eh bien, ça va transformer notre marasme. C'est pour ça qu'on l'appelle l'antidote. On peut se sortir de notre propre marasme en commençant à avoir des pensées et des souhaits bienveillants pour les gens qui nous entourent. Donc c'est une pratique qui est essentielle. Dans le bouddhisme, il y a les pratiques de sagesse. C'est les premières séances qu'on a faites, on les appelle tous des pratiques de sagesse, d'une manière ou d'une autre, de connaissance. Et puis il y a les pratiques de compassion, donc de bienveillance comme celle-ci. Et le Bouddha, dans un discours, parlait de... Elles sont aussi essentielles pour la recherche de liberté que les deux ailes à un oiseau pour voler. Donc c'est vraiment une pratique qu'il ne faudrait pas laisser de côté. Et je m'arrêterai là. C'est vraiment aussi, ce qui est très intéressant avec cette pratique, c'est qu'on en voit assez vite les effets. Donc comme je vous l'expliquais, au petit-déj, quand on souhaite d'être doux avec soi-même et puis qu'on a un moment, eh ben, on va voir en fait, on va voir qu'il va y avoir une autre voix qui va venir se présenter, une autre manière de voir qui va se présenter, qui va avoir une transformation. Et pareil dans nos relations et tout ça, on va peu à peu voir le changement. On va voir l'impact de cette pratique, peut-être plus que les autres pratiques que ce qu'on a fait maintenant. C'est une des pratiques qui est les plus appréciées par les neurosciences, qui a été le plus mesurée au niveau des ondes cérébrales et des scans cérébraux et tout ça, et où il est clairement mesuré. Alors il parle de 6 semaines sur une pratique d'un quart d'heure par jour, de 6 semaines du coup d'une transformation enregistrable du fonctionnement du cerveau. Et même pour les gens qui la pratiquent un peu plus intensément, un peu plus longtemps, au niveau de la masse cérébrale de la zone responsable en fait de l'empathie et de la bienveillance, cette partie-là du cerveau en fait grandit. Donc ça a été vraiment beaucoup beaucoup testé. Et moi je vois la différence. C'est une pratique que pendant très très longtemps je l'ai pas fait. J'en ai souvent entendu parler, je le faisais pas. Pour plusieurs raisons. Il y a une raison, c'est que Souvent, la manière dont elle est présentée, elle ne me convenait pas parce que c'était des phrases toutes faites et ça semblait très religieux. Et maintenant, je pense que je suis plus apaisé avec cet aspect religieux et ces phrases toutes faites, mais à l'époque, ça ne me plaisait pas en fait. Et du coup, ça me rebutait un peu. Et puis l'autre truc, quand même, c'est que c'est du boulot par rapport à la capacité de se poser là et puis d'être juste là. Là, il faut alors faut souhaiter un machin, puis après un autre, et puis ah oui, c'était qui encore, qu'est-ce que je lui souhaite et tout. Et du coup, c'était un peu, il y avait une fainéantise en fait, qui faisait que je préférais me poser dans mon silence plutôt que d'aller cette systématique. Mais voilà, ça fait quand même maintenant quelques bonnes années que je l'ai intégré. Et dans ma propre expérience, je vois vraiment comment ça transforme la manière de relationner à soi et aux autres. Donc c'est vraiment une des pratiques essentielles pour moi que je vous conseillerais d'utiliser et de vous familiariser avec. Donc, où est-ce qu'on en est avec le temps? Ok. Alors, ce qu'on va faire, on va faire une pause. Après, on va faire la méditation guidée. Et puis, il y aura un retour et des questions. Est-ce que avant, par rapport au discours que je viens de faire, est-ce qu'il y a déjà quelque chose, est-ce qu'il y a il y a une réactivité forte par rapport à quelque chose? Ou il y a quelque chose qui vous pose problème par rapport à cette méditation, ou qui vous pose question, simplement, avant de pouvoir la faire. Ouais. Celle qui te plaît. Celle qui te plaît. Ouais, celle qui te plaît. Et puis, idéalement, n'importe laquelle, au moins deux. Et une des deux, c'est celle qu'on va faire maintenant. Et puis, dans les autres, en fait, c'est des variations un peu de la même chose. Et celle qu'on fait là, c'est quand même assez différent. Et les deux sont nécessaires pour pouvoir vraiment avoir un bon outil de transformation en fait. Mais sinon, ouais, celle qui te plaît. Et même si celle-ci, par exemple, ne te plaît pas, ça ne veut pas dire que pendant quelques années, tu ne peux pas faire celle qui te plaît dans les autres. Et comme moi, j'ai fait pendant au moins 15 ans, je ne l'ai pas faite, cette méditation. Voilà. Bah ouais, mais la manière dont elle était présentée ne me convenait pas. Et puis je n'avais pas compris son intérêt non plus. C'est, j'ai jamais eu quelqu'un qui a donné un discours comme je le donne là, pour expliquer vraiment les intérêts de cette méditation. Et je rencontre plein de gens qui méditent depuis longtemps et qui n'avaient pas compris l'intérêt de cette méditation, parce que avant de guider cette méditation-là, je la présente toujours comme je l'ai présentée là. Ce discours-là, vous le trouverez aussi sur le site et tout ça, en plus élaboré encore. Parce que je trouve que c'est, pour moi, ça m'a manqué en fait. On m'a jamais expliqué le pourquoi du comment. C'était des méditations guidées où on s'asseyait, où on commençait à visualiser des gens. Je trouvais ça complètement bisounours et inintéressant. Ça m'a pas intéressé en fait. Et ben, j'ai moins médité 15 ans sans la faire une fois, ou vraiment très peu, quoi. Donc voilà, même si elle ne correspondait pas pour le moment, c'est pas grave. Vous pouvez commencer juste avec la respiration. Et dans ce qui a été proposé ici sur les 5 séances, quelle que soit, s'il y en a une que vous aimez bien, faites celle-là. Et puis, on se retrouve dans un an ou deux et on en reparle. Et de là, parce qu'elle vous aura amené à d'autres types de compréhension, et du coup, avec des ouvertures, des nouvelles questions, des réalisations, ah oui, mais alors. C'est ça que j'ai été faire en Angleterre. J'ai été suivre un stage. C'est passionnant. C'est sur un enseignement assez particulier, assez spécifique, en fait. Et c'est captivant. C'est captivant. Et je vois, il y a des choses que j'avais déjà comprises dans ce stage. Et puis là, ça m'a ouvert des portes vers encore des nouveaux possibles. J'ai dit, mais en fait, ah ouais, mais je vais pratiquer ça là maintenant. Mais c'est génial. Et je vois comment je vais naviguer vers encore plus de beauté, vers encore plus de profondeur, vers encore plus de compréhension. Et tout ça, c'est des paliers en fait. Donc oui, là, prenez...
Comme ça, ça l'idée me vient d'amour inconditionnel.
Exactement.
Mais l'amour inconditionnel, c'est... J'en parlais un jour avec ma mère, elle me dit, oh, ça va, tu l'auras, ton auréole. Et c'est un truc, enfin, le danger, c'est que... Je ne vais pas trop en parler. Enfin, moi, je me suis dit ça quand je l'éprouve, ou quand je veux éprouver, quand je fais un travail pour éprouver. Parce que sinon, ça me met dans une position un peu de... Je ne sais pas comment dire.
Oui, de... il y a tout un tas de subtilités. Absolument. C'est ça que je disais, il y a tout un tas de subtilités.
Et du coup, voilà, bon, c'était juste ça. Je ne sais pas trop l'exprimer.
Oui, oui. Il peut y avoir, il faut être très attentif à ce qui se passe dans notre esprit quand on fait cette méditation. On peut par exemple se placer en supériorité en disant, ben, toi dans la situation dans laquelle tu te trouves, là il faudrait que je te souhaite d'être un peu plus comme ceci, un peu plus comme ceci, comme si moi je savais vraiment ce qu'il te faut. Et du coup, ça, là, on se place dans une posture qui n'est pas saine. Et il y a plusieurs manières de faire ça dans cette méditation. Donc il faut être subtil, il faut être attentif à... on peut être manipulatif aussi, ça peut être manipulatif en fait, manipulateur. Par exemple, moi c'est gros, mais quelqu'un qui nous doit de l'argent et on est là, bah, je te souhaite d'être honnête et généreux, tu vois. Enfin, tu vois voilà, c'est gros, mais ça peut être beaucoup plus fin que ça en fait. L'amour inconditionnel, c'est vraiment, c'est pas un truc qu'il faut se dire, de nouveau, c'est pas un truc qu'il faut se dire que. C'est pas une idée à accepter parce que c'est beau. Il faut se demander si c'est vraiment vrai, si c'est vraiment sain, et si c'est vraiment possible. Et d'abord, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Et il faut vraiment se poser cette question. Et je pense qu'il faut cheminer dans la compréhension de ce que ça implique. Ok, on fait une pause et puis on attaque.